Le PSG a fait l'exploit, les Parisiens sont en demi-finale de Ligue des Champions et on rentre dans le huis clos pour débriefer cette soirée extraordinaire. On est évidemment très bien accompagné en plateau avec des gars, j'ai l'impression qu'ils sont soulagés, rassurés, mais surtout heureux. Et j'ai envie de commencer par Thomas, évidemment, j'ai envie de commencer par toi. Content ?
Bah pas content, je suis d'une humeur à faire la fête, à célébrer. D'ailleurs j'ai réservé une boîte juste à une table en boîte pour 1h30. Si on pouvait y aller, bon, y aller les Lakers quand même. Ouais, bien sûr, soirée d'exception, une victoire avec 4 buts, un enchaînement, enfin un retournement de situation. Il y a énormément de choses à dire. Ce qu'on retient, bien sûr, d'abord, c'est la joie des joueurs sur le terrain, ouais, qui était hyper communicative. La joie dans les tribunes, la joie, je pense, de tous les Parisiens et de ceux qui aiment le PSG devant leur télé.
Ouais, la joie des joueurs, des images très fortes, évidemment. Manu, en face de toi, toujours aussi beau garçon, mais surtout bel analyste pour, c'est pour c'est parler mieux, hein. Un peu de ce quart de finale. C'est mieux parce que parfois, ça sert à rien. Et dis-nous, t'es rassuré toi aussi de ce match?
Ouais, rassuré, je suis euphorique, rouge déjà, voilà, vous le voyez, bah, salut les amis, rouge de joie, rouge de plaisir, parce que mine de rien, le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, c'est rare, et on a vu surtout un Paris costaud, on va en reparler, et c'est quelque part, je dirais pas un fait historique, mais aller gagner 4-1 comme ça à l'extérieur sur la pelouse de Barcelone, faut pas qu'on boude notre plaisir ce soir.
C'est quelque chose d'historique pour le Exactement. PSG. On rappelle que sur 5 matchs, vous avez perdu le match aller, il ne s'était jamais qualifié pour le tour suivant, donc c'est quelque chose d'historique.
Pas que, hein, je peux aussi rajouter que c'est la première fois dans l'ère QSI, Tom, que le PSG va en demi-finale lorsqu'il y a des supporters dans le stade. Non mais
ouais, quand il y a un match aller-retour aussi, enfin tu peux le dire aussi comme ça parce qu'il y a pas de match aller-retour.
Bah si, ils sont allés en demi-finale en partant le Barça et aussi le non en demi-finale ils avaient battu le Barça, ils avaient battu le Bayern avec des matchs aller exceptionnels, mais il y avait Son Père dans les tribunes. Mbappé avait été très très bon, mais il y avait Son Père dans les tribunes, donc du coup ça rajoute un petit peu d'histoire à cette belle soirée.
Tu fais bien de le préciser. Vous êtes aussi avec nous sur Twitch et sur YouTube en direct. Je vois David qui est là, Thomas, Yo-Yo. N'hésitez pas, on prendra tous les commentaires en direct pour faire et égayer un peu ce débrief. Bon les gars, on va essayer de débriefer ce match du mieux qu'on peut. Avant de commencer, évidemment, je vais vous demander un mot sur le ressenti de ce match. Manu, j'ai envie de commencer par toi. Comment t'en ressors de ce match? On voit 4-1, victoire 4-1 du PSG.
Un mot sur cette partie, moi j'irais intensité les gars, parce que pour moi c'est l'intensité que le Paris Saint-Germain a mis dans la partie qui a justement fait déjouer et même poussé quelque part un suicide collectif le FC Barcelone.
Ouais, moi aussi je dirais dinguerie ouais. Parce que oui, il y a la qualification du PSG, on peut en parler, on peut être joyeux, mais ce qu'a fait Ronald Arroyo, franchement, c'est ouais, clairement le game changer, l'élément déclencheur de cette rencontre. Il fait une bêtise de jeune garçon,
de poussin,
tout simplement, de poussin, laisse Barcola aller au bout, faire son face-à-face, marquer, arrête Ter Stegen, l'histoire aurait décidé, mais il a provoqué un suicide de son équipe.
On disait que le mercato du PSG était mauvais, je suis pas d'accord avec Arrojo, c'est vraiment une belle trouvaille, un beau match notre ami. On va rentrer dans ce débrief donc en commençant par les compos de ce match. On va voir la compo qu'avait choisi Luis Enrique pour commencer avec 3 changements. Évidemment le retour de Hakimi sur le flanc droit, Zaïre Emery qui a été titularisé au milieu de terrain et puis Barcola titularisé à gauche. Les gars, c'est les changements qu'on attendait quelque part.
Elle nous plaît beaucoup cette compo parce que Barcola avait réussi son entrée au match aller. On avait vu que c'était le dynamiteur justement dont le Paris Saint-Germain avait besoin. Et puis surtout le retour à un milieu de terrain, à des joueurs de devoir entre guillemets, et des garçons qui pouvaient poser un petit peu plus de problèmes. Et puis le fait de jouer avec un véritable latéral droit, tu pars quand même avec un petit peu plus d'assurance.
On l'a vu, Barcola, dès le début de match, être très incisif. T'étais content de le voir titulaire? Est-ce que c'était normal au vu du match aller?
Au vu de l'amour que lui porte Luis Enrique, on n'était pas surpris. En tout cas, on sait que c'est l'un de ses hommes de base en 2024. Donc, ouais, sur l'aile gauche, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir une équipe équilibrée, une équipe logique. Voilà,
c'est ça.
Le grand problème de Luis Enrique, c'est ces équipes où il invente des trucs ici ou là. Moi, je voulais voir une équipe où, en tout cas, je pouvais me projeter pendant toute une semaine, tout le week-end, avec Paul et entre nous, on a essayé de se projeter sur une compo probable. C'était à peu près celle-ci qu'on voulait voir. Donc, ouais, j'étais plutôt content de la compo et j'ai vu le début de match que j'attendais surtout.
En face, on va voir la compo de Xavi pour le Barça qui a moins changé. Un seul changement, c'est le retour dans le 11 de Pedri. Sinon, c'était le même 11, Pedri qui était de retour. Mais bon, il aurait été utile dans un match où il tenait un peu le ballon. Là, ça a été dur pour lui. Hein. Il revenait de blessure. On l'a senti cramé dès la 50e, 60e minute. C'était pas cadeau. En tout cas, on va partir directement sur ce déroulé de ce match, les gars. On l'a vu directement. Il y a un truc, je sais plus qui de vous deux l'a dit, l'intensité.
Ouais.
Avec Hernandez, notamment sur Lewandowski. Dès le début, on sent que les Parisiens, ils montent haut, ils pressent haut. Parfois même c'est dangereux, mais en tout cas l'intensité est là.
Ouais, tu peux le mettre par contradiction avec le match de Beraldo sur clairement, le match aller qui s'est fait avoir sur les décrochages de Lewandowski. Bon, bah, forcément Hernandez a plus d'expérience, a plus de grinta. Beraldo est un joueur qui a besoin de la balle pour s'exprimer, etc. C'est un joueur technique. Ils font une super entame. Vraiment très, très honnêtement, il y a les 10 premières minutes sont très réussies dans l'intensité, tactiquement ils tiennent le ballon, le fameux la bataille de la possession, ouais. On en parle tout le temps. Le PSG a eu la possession pendant tout le match, même avant le but et avant le carton rouge. Franchement, elle m'a plu cette équipe parce qu'en plus très rapidement on voit comment ça se dessine. À gauche on est fort, il y a Ruiz et Barcola qui dès le début font des différences.
Ouais, exactement. Et moi ce que j'aime c'est aussi la prise de risque de ce Paris Saint-Germain là. Et c'est là qu'on peut peut-être parler aussi de la patte un peu de Luis Enrique. Ils sont allés chercher justement le Barça en individuel au milieu de terrain, ils sont allés les chercher très très haut en laissant beaucoup d'espace dans leur dos et quelque part ça montre aussi également que ce Paris Saint-Germain là dès l'entrée, dès l'entame de ce match mentalement y est et ça n'a pas toujours été le cas en Ligue des Champions donc il faut quand même le saluer et ça c'est la patte aussi de Luis Enrique.
Mentalement ils y sont, ils se projettent beaucoup et ça va même leur causer l'ouverture du score des Barcelonais. On est à la 12e minute de jeu, Nuno Mendes enchaîne deux pertes de balles dont une qui va être qui va donner le but au PSG, défense trop haute, Yamal qui déborde, qui élimine Nuno Mendes d'une facilité
déconcertante.
J'ai cru voir un attaquant défendre sur un ailier et il centre pour Rafinha, ouverture du score.
Qui sans tirer marque. Hein.
Ouais. Sans tirer,
oui. Il n'y a même pas un geste d'un mec qui veut tirer.
C'est Hakimi qui est sur lui et il bat Donnarumma.
C'est là que en fait, t'as raison, le fautif c'est Nuno Mendes et la défense est complètement apathique. Donnarumma, on peut le mettre dedans, même si c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'il couvre au premier poteau, il fait confiance à son défenseur. Il voit son latéral perdre son duel. Là, t'as plus trop de solutions à ce moment-là. Soit tu te projettes et tu t'exposes et tu peux justement ouvrir la voie à une autre passe et à un but qui est tout ouvert. Mais en effet, on est inquiet parce que ce Barça-là, quelque part, ça va être sa seule occasion, son seul tir cadré de la première période quand même. Et ils arrivent à marquer, ils arrivent à transformer. Et là, t'as un désavantage de moins 2. Et c'est quand même plus le même scénario.
Mais Manu, oui, tu vas dire un truc, pardon.
Je voulais juste demander aux gars dans les commentaires, est-ce que pour vous, Donnarumma est un peu fautif sur le but? C'était un débat qu'on avait.
C'est vrai
qu'on le voit sur.
Il est mal placé, c'est vrai.
Il est mal placé, il est un peu en dehors de sa cage. Donc dites-nous, oui ou non, s'il est fautif, Thomas.
Ouais, bien sûr. Moi, le signal que renvoie ce but et qui est terrible pour le PSG, c'est t'as beau être en place, t'as beau faire 10 bonnes premières minutes, la première incursion dans les 40 mètres parisiennes. Te permettre de marquer. Et le signal, il est terrible. D'ailleurs, nous, on le ressent. On est entre nous. On est plutôt conquis. Il y a de l'intensité, t'as raison. Techniquement, c'est intéressant. Voilà, c'est plutôt équilibré. Il y a des petits espaces et tout. Mais en fait, ce but, il te coupe les jambes. Et là, je me dis, ça recommence.
L'histoire,
c'est toujours la même chose. Et on parle tout le temps d'efficacité. Je suis le premier à parler d'efficacité. Et ben, attends, la défense, elle est catastrophique dans l'efficacité dans cette première mi-temps. Enfin, dans cette première minute.
Je vais me contredire, mais j'ai dit mentalement d'entrée de jeu avec les 10 premières minutes, ils sont rassurants parce que tu les trouves au niveau, parce qu'ils prennent des risques, justement, ils mettent le niveau d'intensité. Mais tu te dis aussi que en transition, tu trembles. Tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos. Mais dès que le Barça, justement, va chercher sur les côtés, évolue en transition ou met des ballons longs, t'as l'impression, justement, qu'il y a énormément de fébrilité et tu te dis mince, enfin c'est pas normal entre guillemets de prendre ce but là à ce moment là. Ça rappelle le momentum aussi du match aller, les 10 premières minutes avaient été très bonnes.
Clairement.
Tu te fais piquer là à la 12e, on se rappelle de l'occasion je crois de Lewandowski qui avait fait basculer la première période justement à l'aller. Tu as peur que le scénario se répète.
De toute façon le match a basculé tout au long de la rencontre sur les côtés et on le verra par la suite.
J'ai mis un sondage pour Donnarumma.
Très bien.
Voilà donc je te laisse 2 minutes
voter.
Et ensuite on prendra.
Ouais, voter pour Donnarumma. Vous le dites, la défense pas rassurante. Vous dites aussi que le PSG a la possession, mais le PSG est inoffensif. Finalement, pendant 25 minutes, ils ont des occasions. On voit Barcola beaucoup déborder, mais il n'y a jamais d'occasion franche. Puis vient enfin une frappe de Mbappé avec une super parade de Ter Stegen et aussi une tête qui s'enchaîne. Et là, on se dit, ça y est, enfin, le PSG se réveille.
Ouais, les incursions dans la surface permettent d'être dangereux. Pour la première fois du match, t'as raison aussi de dire que Ter Stegen fait un vrai arrêt. Il y a une belle défense aussi de... Je crois que c'est De Jong qui revient bien parce que la petite passe en retrait de Barcola est magnifique. Et en général, ça, c'est but pour Kylian. Donc, c'est la première fois que tu dis « Ah, bon !» Ils ont pris un but, ils ont pris un coup sur la carafe, mais ils n'abandonnent pas. Il y a un semblant de réaction, même si dans l'ensemble, on les a sentis apathiques sur les 5-10 minutes d'après. Hein.
C'est ça ce que j'allais dire, c'est que Paris recule quand même après l'ouverture du score. T'as un Barça qui presse aussi assez haut. Je crois que j'ai pris une note, mais genre, il presse à 6, on va dire, à l'entrée de la surface de réparation parisienne. Et c'est là où Paris a un petit peu de mal. Tu vois, normalement, tu t'appuies sur du gelon pour essayer de te défaire du pressing, pour essayer justement d'aller chercher ton milieu, tes attaquants. Et Paris a du mal à le faire. Et quelque part, s'il y a un homme qui va incarner, il y a deux hommes qui vont incarner justement ce sursaut parisien, et ces 6 minutes de folie qui vont faire basculer ce match, c'est la relation Ruiz-Barcola, t'en as parlé Tom tout à l'heure, Barcola le dynamiteur et Ruiz l'intelligence, c'est-à-dire que on sait que c'est pas le garçon le plus rapide, on en a parlé lors du débrief, mais par contre sur ce match-là la différence c'est que le ballon va très très vite entre ses pieds.
Il y a un moment où on se dit qu'il y a que Ruiz qui se projette, c'était assez fou, alors il y avait Barcola à ses côtés, mais c'est lui qui portait la balle, et Bichette c'est pas son métier, à un moment quand il arrive dans la surface de réparation, souvent bon bah soit tu la remets en retrait, mais c'est pas lui qui va te faire une roulette.
Ouais, mais du crédit à Fabien Ruiz, parce
beaucoup
que
de crédit.
Ça venait de son placement parfait. Le côté gauche du PSG dans cette première mi-temps a été franchement très très bonne, en tout cas offensivement. Nuno Mendes a toujours trouvé soit Barcola, soit Ruiz dans les espaces, et ils arrivaient toujours à se trouver sur un truc qui a été bien pensé à l'entraînement. Tu sens que ils sont pas arrivés en disant il y a un espace, on va jouer comme ça. Et j'ai apprécié l'idée que on peut jouer 10 fois d'affilée côté gauche, on va arriver à un moment donné à être dangereux. Et bon, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, beaucoup de crédit aux trois mecs là qui s'entendaient très
c'est
bien.
C'est presque une surprise quand même que le danger vienne du côté gauche, parce qu'on le répète, on l'a dit en preview, on l'a dit en débrief, et on le verra un petit peu plus tard dans ce débrief et dans ce match. On pensait que le côté faible, justement, du Barça, c'était le côté Cancelo sur leur propre aile gauche. Et tu vois très très peu d'occasions parce que ça a du mal à combiner entre Dembélé qui a énormément de déchets à ce moment-là du match, et notre ami Hakimi qui est un petit peu timide.
Et ça va le devenir, hein, le côté gauche du Barça va devenir leur côté faible. Mais je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on débriefe un autre match. Parce
non,
que
mais t'as raison, il y a tellement. Non,
c'était le match aller
mais
ou
c'est un autre match. Mais c'est ce que t'avais la vision juste, Tom, quand on a fait la preview, t'as dit j'ai l'impression que c'est un match où il va y avoir 10 000 momentum. Un moment tu vas être qualifié, un moment tu vas être éliminé, et ça va être comme ça sur le match aller-retour. C'est exactement le scénario qu'on a eu en fait.
Et puis les grands matchs changent avec des grands moments, et les grands moments peuvent être des moments catastrophiques. Hein. Ça peut être vers le bas, l'intervention de Ronald Araújo sur une passe en profondeur pour Barcola. Barcola qui le bat en vitesse, il peut le laisser aller, il doit le laisser aller. Il va avoir un 1 contre 1. On sait que Barcola n'est pas le meilleur joueur en 1 contre 1.
Il est jeune.
T'es jeune. Ouais. Au pire, tu égalises.
Bah oui.
Et il choisit d'essayer de l'attraper, de jouer l'épaule, mais en fait, il est trop loin. Il l'attrape. Carton rouge. Oh. C'est à la limite de la surface de réparation.
Ça aurait pu siffler le péno. Hein.
Le match.
Il peut siffler le péno. Après, c'est pas grave. On va parvenir. Pour une fois, clairement.
Il y a rouge et faute. C'est déjà, rassurez-moi.
Ouais. Paris s'est fait voler deux corners ce soir. Ça me va. Ça me va pour un quart de finale de Ligue des Champions. Il faut saluer. Alors, t'as raison. Il faut revenir sur le geste de Araújo. Il faut saluer surtout le travail de Barcola, parce que c'est Barcola qui le pousse à la faute. Mais par contre, il y a une réalité. C'est que, je sais pas, c'est un mot. Comment t'expliques qu'il fasse ce geste-là ? C'est quoi ?
C'est impardonnable.
Il pète un plomb, c'est un mauvais réflexe. C'est comment on peut expliquer, avec cet avantage de plus 2, à un moment donné où Paris revient un petit peu, retrouve un petit peu des couleurs, comment il peut péter les plombs à ce point-là ?
Mais moi, je sais pas vous, mais j'ai l'impression
c'est
qu'on
débile,
on le sent
c'est
venir. Araújo défend plutôt bien depuis le début du match, mais il défend à l'émotion. On le voit faire des grands tacles glissés sur Dembélé, on le voit faire des interventions. Raison. Il a les yeux injectés de sang, comme dirait Erwan. C'est presque quelque chose qu'on pouvait prédire, même si c'est grotesque.
Et tant que ça, tu crois ?
Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il était un peu pris par l'événement, Araújo.
Bah, en tout cas, cette intervention, c'est clairement dans ton sens. Hein. On a tous eu la sensation, on se disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Si j'avais été Barcelonais. Et j'adore aller en vacances à Salou, mais là vraiment, je l'aurais insulté, mon gars. C'est vraiment l'insulte du supporter frustré, catastrophique. Mm-hmm. C'est tout ce que tu veux pas voir. Tu prends un but au pire, t'es encore qualifié. Il y a un partout, il y a encore 70 minutes à jouer. Enfin bref, tu peux retrouver un momentum, mais là tu pénalises tellement ton équipe. C'est arrivé des milliers de fois, hein, des cartons rouges assez tôt, incompréhensibles, de la frustration et tout ça. Et ça arrivera d'autres fois. Sauf que là, ça tombe sur lui, sachant que c'est l'un des plus expérimentés de la défense, hein, aussi. Oui. C'est quand même incroyable. Sûrement en tout cas dans la centrale, dans la défense centrale, dans la charnière.
C'est le cadre de cette défense.
Clairement. Et c'est un super joueur sans aucun doute.
Il a fait un match aller
incroyable. Et fait une dinguerie. Et en fait, c'est fou parce que notre réaction à tous, et la première pour les supporters parisiens, on l'a célébré comme un but. Ah, il y a rouge, tu célèbres comme un but parce que tu connais l'importance de ce mec, l'importance aussi du changement de momentum qui peut, sur une occasion, un but et encore plus un carton rouge, et donc de ce qui peut en découler derrière. Bon, l'histoire retiendra que Dembélé ne marquera pas le coup franc. Il n'était pas trop mal tiré.
Un peu trop.
Mais pourquoi Kimi ne tire pas ces coups francs-là ? On en parlait
c'est
là.
Pas,
qu'est-ce
c'est
que...
vrai, c'est vrai. C'est
tire-les, frérot.
C'est les consignes après, ouais, hein, bon, mais je sais pas. Mais en tout cas, ça dénote d'un truc qui va être prégnant sur les minutes qui suivent et sur le reste du match, c'est la gestion émotionnelle de ce FC Barcelone, dont à un moment donné ce soir il va falloir parler, parce que inverse le truc, le match, admettons que Araújo soit un joueur du Paris Saint-Germain, le match a lieu au Parc des Princes, Là, tu vois, tout le monde aurait parlé ce soir de caca culotte, tout le monde aurait parlé de faiblesse mentale.
Attends, non, là, je vois, tout le monde parle de remontada, de choc du Barça. Oh, mais
remontada, faut pas y aller.
Moi, c'est pas une remontada. En revanche, c'est un énorme choc. C'est, ah, bien sûr. C'est le caca culotte barcelonais. Et d'ailleurs, tu l'avais mis en avance, hein, que cette équipe était capable de se chercher.
On n'est pas là pour jeter des fleurs, mais dans la prévue, on l'avait dit.
Trop tard, tiens.
C'était que le Barcelone était un peu parisien par moment, parce qu'ils étaient capables de craquer dans des grands moments. On l'a vu ce soir. On l'a vu ce soir, tu l'as dit, on le célèbre comme un momentum du côté des Parisiens. Mais en fait, le momentum, il commence et il va jamais se terminer.
Ouais, c'est long après. Hein.
C'est long. Heureusement pour les Barcelonais, il y a la mi-temps. Mais juste avant la mi-temps, il y a notre ami Dembouz qui vient nous mettre encore un but, alors sur un débordement à gauche.
Donc, encore une fois.
Donc, ailier gauche pour ailier droit. Cancelo, on l'a dit 20 000 fois, ce n'est pas un bon défenseur. Il se fait prendre dans le dos complet. Et Ousmane Dembélé fait une reprise de haute qualité, on peut le dire. Les gars, vu la première mi-temps de Dembélé, je repose la question du match aller. Est-ce que c'est un but qui cache la forêt?
Non, parce que
un but,
et on en parlera pour Kylian tout à l'heure. Mais un but en quart de finale de Ligue des Champions, ça vaut énormément. Tu sais, tu te souviens à l'ancienne quand il y avait les buts à l'extérieur, etc., et que parfois tu étais mené de 2 buts ou 3 buts, et quelqu'un, tu marques un but, il y a 3-1, et le gars il dit « Ah, oh, c'est un but qui va rien changer ». Un but ne change jamais rien. Un but change des momentum, change des mentalités, te permet de faire reculer une défense, etc.
Donc, un bloc,
vraiment, la première mi-temps de Dembélé, je vais vous dire un truc, j'ai jamais vu, et je pense qu'il n'y a pas 2 joueurs comme lui. Il est capable de marquer un but, donc, pour 3e but de la saison, 2e contre le Barça, bravo Dembouz, et d'absolument tout rater. Parce qu'il a tout raté dans cette première mi-temps. Les enchaînements avec Hakimi inexistants, les dribbles qui ne passent pas, les occasions franches, la frappe où il fait ça avec un grand sourire, c'est de la surconfiance ou le gars…
Il est au five avec nous, c'est quoi?
Attends, dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez pensé ça quand il fait ça? Je dis, mais gros, tu rates une occasion de ouf, tu veux centrer, tu rates, elle passe à ça. Oui, mais il rigole et tout, mais c'est un joueur hors norme.
Il est dans son monde, ce mec. Il est ailleurs, il est pas là, il est pas à Barcelone, où ils sont 18 dans sa tête, et je sais pas, il a plein de facettes. Il est frustrant sur cette première période. Dès qu'il touche le ballon, comme tu dis, tu sais,
quand il glisse sur le ballon là, quand il glisse sur le ballon,
t'as envie de reprendre la manette et tu sais, lui faire faire les bons choix.
Frère, hein.
Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'il a un déchet pareil sur les transmissions, et surtout on voit pas la relation Dembélé Hakimi sur ce côté droit. On en a parlé avant le match aller, Hakimi jouait pas, mais on attendait énormément de cette association là, et il y a absolument rien. Mais comme tu l'as dit, il est décisif, et on va le voir un petit peu plus tard. Il est quasiment impliqué sur tous les buts du Paris Saint-Germain ce soir.
Et quand tu gagnes, ça change tout. Et quand tu perds, t'es frustré parce qu'il y a des trucs. Quand tu gagnes, bah t'es obligé de dire bravo, bravo gros.
Quelque part, heureusement qu'il est pas tout seul dans sa tête et qu'il est un petit peu
illuminé
dans la lune.
Là, ouais.
Parce que ce soir, il a quand même pris une bronca de tout le stade.
Mais ça
bon
le
choix.
Oui, mais
c'est alors, le mais vous trouvez que ça le sert?
Bah là,
la déconnexion, parce qu'il fait quand même un match où ça se voit qu'il veut prouver et qu'il est contre, pas les 11 joueurs du Barça, il est contre un stade, et tu sens dans ses choix, il force beaucoup de choses. Alors que d'habitude, il rentre une fois à gauche, il déborde, et il aime bien décaler à Hakimi. Franchement, sur la première mi-temps, je suis même pas sûr qu'il fasse une passe
dans
la profondeur, un décalage de ouf.
À la fin de la première mi-temps,
c'est ça.
Mais moi, il y a un truc qui me fait rire avec Dembélé, et après on clôturera le sujet, c'est que c'est le même joueur que Rennes, que quand il était à Rennes.
C'est-à-dire que
moi, je me souviens à l'époque, je faisais partie du train qui disait qu'il était plus talentueux que Mbappé. Le gros problème de Dembélé, c'est que tu le vois ce soir, il y a peu d'évolution. C'est le même joueur génial qui peut faire des différences. C'est le même joueur génial qui est très maladroit devant le but, même si là il envoie une bastos. Mais on va voir après, il en a raté 2-3. C'est le même joueur qui est déconnecté, qui on a l'impression n'est jamais pris par la hauteur d'un événement et qui n'arrive pas à rentrer dans un mood. C'est le même joueur qui a 10 ans avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Je trouve ça dingue.
Et t'as raison, il est titulaire partout où il passe, parce qu'il a une qualité de pied de rupture exceptionnelle, mais c'est aussi ce qu'il envoie dans toutes les grandes compétitions de l'équipe de France sur le banc à un moment donné, parce que dans le très 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 haut niveau, on y est dans le très haut niveau de club, il n'y a personne qui peut prendre sa place. Mais quand tu as un mec qui est un petit peu plus concentré, qui va être un peu plus sérieux, donc je pense à Kingsley Coman, d'ailleurs qui peut être forfait pour l'Euro, mais bref, tout de suite, tu vas chercher un autre mec qui va être plus impliqué, parce que ça te fait trop peur. Moi, si j'étais coach, je pourrais pas vivre avec le danger qu'il apporte pour tes coéquipiers, les pertes de balles et les
rebonds. Il a mal vécu, hein.
Clairement. Et Deschamps, j'ai l'impression que lui, il est un peu dans ce mood-là. Ouais. Il lui fait confiance parce qu'il est trop fort, mais tu peux pas non plus trop lui faire confiance parce qu'il est capable de te faire perdre un quart de finale de Coupe du Monde.
Pour le pire et le meilleur, ce serait son épitaphe, tu sais.
Dans le chat, vous êtes plutôt d'accord, hein, Sébastien qui dit le gars s'est marré tout le match. C'est vrai que ça dégageait une image un peu folle. Donc il y a 5 minutes de feu, il y a Dembélé qui derrière fait une reprise qui rase le poteau. On en a parlé. Et il y a Cancelo qui est encore en retard. Et puis là, ça va être la mi-temps, ça y est, les deux équipes peuvent souffler, mais on le sait. On le sait que le Barça est dans le dur terrible.
C'est quoi ton mood, toi ? J'aimerais bien savoir ton mood, parce que moi, je connais à peu près notre mood, mais le tien, t'es un peu neutre. Tu dis, c'est la mi-temps, enfin pour le Barça, il y a un partout, ils ont fait le plus dur, le PSG.
Moi cette année, j'ai regardé beaucoup de matchs de l'OM, vous allez comprendre la comparaison.
Voilà, parce que je sais pas, on parle de foot, là.
Ils sont incapables de gagner des matchs quand ils sont en supériorité numérique. Parce qu'il y a des équipes en face qui sont capables de jouer à 10. Je ne m'attendais pas à ce que le Barça joue aussi mal à 10. Quand les Barcelonais rentrent à la mi-temps, je me dis, ok, les Parisiens sont au-dessus, mais il y a un monde où ils peuvent tenir le résultat. Il y a un monde où au moins ils vont en prolongation. Ce qu'on voit sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, les gars, on voit qu'ils vont craquer.
Attends, on a quand même un Barça qui rentre au vestiaire avec les stats suivantes. Zéro corner, un centre, une frappe cadrée.
Et 36%
de possession.
Lewandowski a une occasion.
T'as raison.
Où elle peut aller, il met une frappe au-dessus. Franchement, on a la lucarne.
Et ça peut être la balle de 2-0 à ce moment-là. Ouais, t'as raison.
Donc on revient des vestiaires, les gars. Frappe d'Hakimi sur intervention de Ter Stegen. Mmh. Le Barça prend un peu le bouillon. Hernandez, toujours très fort sur Lewandowski. Ensuite, il y a la frappe de Ruiz sur un décalage.
Ça, c'est un but. Hein.
C'est
la meilleure action de Kylian, à part le deuxième but, on va dire.
Le décalage, c'est la meilleure action de Kylian en première aussi, qui se crée tout seul un peu. Mmh. Tu vois.
Ouais, mais elle n'est pas réussie. Là, c'est l'action réussie de Kylian Mbappé.
Oui, t'as raison.
Il a deux actions. Il a trois usages techniques réussis dans le match.
Ouais, t'as raison.
Et dont celui-ci, du coup.
Deux buts. Ouais, si vous nous écoutez, les jeunes cadrés dans ces moments-là, cadrés surtout.
Bonne frappe et cadré, comme disait Paoletta.
C'est le début du feu, mais en fait, on va rentrer dans 6 minutes de folie, les gars. 6 minutes, c'est du jamais vu. Hein. But de Vitinha à la 54e minute sur une combinaison sur corner. Les gars, comment vous m'expliquez aujourd'hui que Vitinha, on connaît sa frappe, t'en parlais en preview. Comment 3 joueurs du Barça peuvent être aspirés à gauche et lui tout seul pour frapper?
Alors attends, t'as 3 joueurs qui sont aspirés à gauche, t'as des joueurs qui sont en surface de réparation. Ouais, corner à la rémoise. T'as des joueurs qui sont à la surface de réparation qui restent complètement apathiques. Il n'y a personne qui monte sur Vitinha. Vitinha, qualité de frappe de dingue. Et puis la confiance aussi, on va le dire, c'est sans doute le meilleur parisien encore une fois ce soir. Il a pris ses responsabilités, la frappe elle est absolument incroyable. Mais alors l'erreur défensive du FC Barcelone qui, une fois de plus, se saborde ce soir.
Ouais, et en fait cette action, donc c'est purement tactique de concentration, etc. Eh bien, tu peux le ranger dans toute la colonne. On a raté parce qu'on est jeune. Alors, au match aller, on disait c'est une bonne équipe, ils sont jeunes, ça passe, mais au retour, ils ont fait que des trucs de genoux, des erreurs grossières. Donc, le carton rouge, les petites erreurs, le pénalty de Cancelo plus tard, les erreurs de Cancelo dans son dos, alors que. Bon, voilà. Et cette action, c'est clairement, on n'est pas prêt, on est déconcentré.
Ouais, on n'est pas concentré.
Oh, franchement, il y a quoi? Le premier joueur autour de lui, il y a quoi? 15-20 mètres.
C'est incroyable.
Il a le temps de contrôler, il a le temps de mettre en place, il a le temps surtout de mettre une frappe magistrale. Quand elle part, tout le monde sait qu'il y a but.
Ouais,
elle part fort, elle est croisée avec le rebond, Ter Stegen est très loin. Bravo Vitinha d'ailleurs. 3 minutes avant ça, je me dis, il est en train de faire un match exceptionnel, machin. Il est trop fort. Franchement, s'il marque, et bien tout de suite, on pourra dire que c'est l'homme du match. Il n'y aura pas de doute. Et pourtant, on est très, 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 très tôt dans le match.
Et on va dire ce qu'on s'est dit à chaud, ça fait plaisir d'avoir un milieu de terrain qui prend sa chance, qui frappe, qui marque des buts. Je vais pas faire, on va pas avoir une pensée pour Marco Verratti
si,
ce
toujours,
soir,
mais
c'est peut-être là aussi où tu vois qu'il apporte quelque chose que Marco Verratti justement ne pouvait pas apporter malgré tout son talent et tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain.
But de Vitinha donc, les Barcelonais sont à égalité avec les Parisiens sur le match aller et le match retour, mais vous le disiez, comment tu sens les Barcelonais? Je pense que dans tous les sports, il y a un truc qui ne trahit pas, c'est ce que tu dégages, c'est l'attitude. L'attitude, elle est honteuse du côté des Barcelonais et tu sens qu'ils vont craquer.
Est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient. Vous pensez que c'est mental ce qui s'est passé aujourd'hui ou c'est physique? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un écart physique,
non, moi, c'est
mais
mental.
Énorme.
Non, mais c'est la gestion des émotions. On va y venir parce que après ce but, t'as Gundogan qui a une
énorme occasion. Ah oui, les 26 minutes. Oui, je t'ai coupé. C'est les 6 minutes. Vas-y, tu vas pas aller au bout.
Il y a une occasion qui est dingue. Et puis, vas-y, je te laisse faire les émotions.
Il y a la réponse de Gundogan une minute après qui rase le poteau. 56e, Xavi qui est expulsé, qui devient complètement fou. Qui
envoie une frappe.
Une meilleure frappe que.
C'est une dinguerie.
Meilleure frappe que.
Il a pété les plombs.
C'est une dinguerie. C'est là où je te dis la gestion des émotions. Alors, je pense que tu vas le dire, mais donc on a Araújo qui pète les plombs, on a Xavi qui se fait expulser. On rappelle que c'est sans doute le dernier match de Xavi à la tête du FC Barcelone en Ligue des Champions, que la Coupe d'Europe représente le plafond de verre de Xavi dans son passage justement au Barça en tant qu'entraîneur. Il pète complètement les plombs, il se fait expulser. Qu'est-ce qui se passe après? Son assistant se fait expulser. Ça montre quand même, les gars, que dans la gestion émotionnelle, t'as gagné 3-2 au Parc des Princes, t'as mené 1-0, t'aurais pu même mener 2-0, et ils se sont sabordés tout seuls. Et alors qu'un joueur pète les plombs sur le terrain, soit déconcentré, malheureusement c'est les choses qui arrivent, mais quand c'est le staff qui commence à rentrer dans cette spirale-là, Alors que t'es à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, t'es toujours pas éliminé.
Il y a deux,
t'as toujours, t'es égalité, t'as toujours ton,
oui,
t'as
deux,
oui, sur le,
tu vas en prolongation,
sur le score, oui, voilà, sur le score, pas qualifié alors, sur le score, il y a prolongation, il y a égalité, c'est ce qu'on appelle égalité. La prolongation vient quand il y a égalité.
Ah,
bah non, tu viens de dire t'es qualifié.
Non, j'ai dit égalité.
Non, t'es égalité, ouais, c'est ça.
On dit, alors moi j'ai dit égalité, t'as dit égalité, on est d'accord, voilà, bon, très bien.
Jusqu'ici tout va bien. Et donc voilà, et je comprends pas, même si le scénario il est frustrant, même si t'es à 10 contre 11, à un moment donné, il a craqué complet. Il a craqué. Alors, il y aura sans doute des gens qui diront, oui, c'est le carton rouge était peut-être abusé ou quoi que ce soit. Ouais. Après, on sait pas ce qu'il a dit, on a vu ce qu'il a fait, on sait pas ce qu'il a dit. Mais en tout cas, c'est un craquage mental et ça vient du banc. Ça vient pas d'un joueur sur le terrain.
Mais c'est une énorme faute de Xavi. Tu sais, on est obligé de le comparer avec d'autres entraîneurs qui sont des cadors dans cette Ligue des Champions. Ancelotti n'a jamais pété un cap comme ça.
Jamais.
Zidane.
On avait fumé une clope. Ancelotti.
Il a peut-être le un sourcil un jour. Zidane ne s'est jamais énervé comme ça. Pep Guardiola, s'il s'énerve, c'est sur son banc. Ouais. À un moment, quelle image tu renvoies à tes joueurs si même toi, tu sens que le match est en train de te glisser entre les mains. Et on va le voir. Lui, il est en train de craquer. Les joueurs le voient. Et il y en a un qui était déjà sous l'eau, qui va craquer encore plus. C'est Cancelo. Oh, Cancelo, c'est à quel moment, t'es à la 59e minute, on le dit, il y a égalité entre l'aller et le retour, à quel moment tu viens faire un tacle dans la surface derrière le joueur et provoquer un pénalty. Comment tu peux faire, déjà Rojo c'était scandaleux, comment tu peux faire deux erreurs techniques de ce niveau en quart de finale de Ligue des
Champions? Est-ce qu'on peut pas apporter une autre lecture les gars? T'as raison, cette équipe a pété les plombs, on l'a dit, gestion émotionnelle catastrophique sur ces 90 minutes et plus. Mais est-ce qu'on peut pas mettre le crédit là justement sur la partition qu'a joué le Paris Saint-Germain? Hier il y a une conférence de presse où Luis Enrique montre beaucoup de confiance. J'ai, à un moment donné, j'ai même cru, je me suis dit, soit c'est de la confiance, soit c'est de la suffisance.
Mais à l'aller, c'est déjà le cas.
C'était de la confiance.
Pourtant.
Et, mais ouais, mais il n'y a pas les mêmes ingrédients au retour qu'à l'aller. T'as pas ce pressing haut, t'as pas cette équipe agressive qui gagne des duels, à la différence justement du match aller, qui enferme cette équipe justement dans ses 30 derniers mètres. Et Cancelo, on le sait, c'est l'un des meilleurs contre-attaquants aujourd'hui en Europe, mais c'est un mec, s'il a pas de profondeur, c'est pas le meilleur défenseur. Et là, il est enfermé, il a pas de ballon, il a pas d'espace, et quelque part, il pète complètement les plombs. Est-ce que c'est pas le Paris Saint-Germain qui a provoqué ça? Moi, j'ai l'impression que si.
Alors, peut-être un peu, je vais t'apporter une explication, vous me direz ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Avant le match aller, le PSG joue un match de championnat, revue d'effectifs, etc. Tu joues, c'était samedi, ouais. Et tu joues le match mercredi. Ce week-end, PSG ne joue pas. Mm. Donc, il y a une semaine de préparation sans un match au milieu, que tu es quand même obligé de préparer.
Or, bien sûr.
Le Barça, la semaine avant le match aller, il y a la Super Coupe d'Espagne, il ne joue pas de match. Ce week-end, il joue contre qui? À Cadix. Et il gagne 1-0. Je ne vous dis pas que jouer un match, ça change tout.
Ils font tourner.
Tout le monde fait tourner.
Il y a deux joueurs du match aller qui sont présents.
Je ne dis pas le contraire. Il n'empêche qu'il faut faire le déplacement, faut jouer le match.
T'as l'influx.
Il y a l'influx. Je ne te dis pas que c'est. Et surtout, tu n'as pas 6 jours pleins où tu es focus sur ton prochain match. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça ait tout changé. Mais regarde la différence de visage entre les deux équipes avec une semaine de préparation avant et après.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais moi j'avais l'impression, en tout cas sur le match aller, que ça aurait pu être justement une épine dans le pied du FC Barcelone, parce que tu te rappelles qu'il y a beaucoup de cadres de cette équipe qui étaient blessés, soit qui étaient revenus juste avant le match aller du Paris Saint-Germain, ou le match avant. Bref, beaucoup de mecs qui manquaient de rythme. Et tu te dis aussi que pour ces mecs qui manquent de rythme, c'est pas mal de jouer avant un match de Ligue des Champions. C'est pas d'un coup, t'appuies sur un bouton, la fameuse théorie de l'interrupteur, tu sais.
Ça marche sur 2 ou 3 semaines, voilà. Mais en vrai t'as joué ton match le week-end contre Cadix, où t'as joué personne n'a joué. Mine rien, Pedri rentre à l'aller, il fait la passe, il change tout. Donc voilà, c'est aussi
mais ça. Raison,
en tout cas, tu parlais des ingrédients mis par les équipes. Il y a quand même deux visages, à la fois pour le Barça et à la fois pour le PSG. Donc, il y a ces jours de préparation en plus, d'influx peut-être, et de concentration maximale sur un seul objectif, sans qu'il y ait au milieu. On va prendre l'avion, on va à Cadix et puis on va jouer ce match.
Est-ce que justement, Luis Enrique n'a pas compris que sur le match aller, que. Tu sais, c'est pas basé sur les momentum qu'il a eu et les moments justement où Paris a mis les ingrédients. On l'avait dit lors du débrief, ça a duré 25 minutes, les 10 premières minutes de la première période, les 15 premières minutes de la deuxième période. Et c'est pas dit, là, en appuyant là où ça fait mal, on peut faire du mal à ce Barça. C'est ce qu'on a vu pendant 90 minutes.
T'as raison, et le dernier truc par rapport à la préparation et pour recouper au match, toutes les actions sont venues d'où? Des côtés.
Complètement.
Donc on peut dire avec le recul qu'il s'était complètement trompé, on l'avait déjà dit dans le débrief vendredi dernier sur sa compo avec Dembélé, machin, nan. Là il a mis un vrai ailier Barcola, un vrai ailier Dembélé, accompagné par Ruiz qui fait le surnombre et par Hakimi et Zaïre Emery qui a pas été très bon mais qui a permis d'avoir parfois des surnombres. Et comme de par hasard, on a vu les grandes faiblesses de Cancelo.
C'est vrai.
Donc parfois le foot c'est aussi juste... T'as des qualités, ils ont des défauts. Vu, on a plus là-dessus, plutôt que de tout réinventer ici et là.
Je suis d'accord, mais l'analyse est tellement faussée par le carton rouge.
Ah bah oui,
mais c'est sûr.
Mais
c'est
parce, que le point d'ancrage, la qualité de ce Barcelone, c'est le milieu de terrain. Et tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont de retour, De Jong, Pedri, on les a vus cramer. En fait, c'était le scénario, ça, catastrophe.
Oui,
c'était la catastrophe. De jouer à 10, c'était le pire truc qui pouvait arriver. On revient au match. Penalty, Mbappé le tire très bien. Mbappé qui a été très discret dans ce match, on en parlera un peu plus tard, mais qui là en tout cas ne bégaye pas, comme très souvent sur penalty, en tout cas dans les moments importants.
Qu'est-ce que t'as pensé de la célébration, mon Tom ?
Oh bah écoute, il va vers le COB dans un premier temps et après on sent qu'il
envoie un message.
J'ai l'impression qu'il a signé le contrat déjà. S'il y avait encore un doute.
Il n'y a plus aucun doute. Ouais.
Donc but de Mbappé là, le PSG donc devant et va devoir donc le Barça va devoir sortir de sa zone de confort et devoir attaquer même s'ils sont que 10. Il y a une frappe de Lewandowski qui est tout seul à la 72e avec un bel arrêt, bel arrêt de Donnarumma, ça faut le signer, un beau retour de Marquis, mais on s'amène à quelque chose aussi qui va devoir être corrigé, et je ne sais pas si c'est possible de le corriger cette année pour le PSG, c'est qu'il y a des moments de trou d'air qui sont encore trop importants.
Rappelle-nous à quelle minute là le but
59e le but de Mbappé, et après les 30 dernières minutes.
Merci, donc les 39 minutes, parce qu'il y a 38 minutes qui restaient, c'est devenu tout ce qu'on peut détester, avant le quatrième but, mais tout ce qu'on peut détester d'une équipe qui mène. T'as été tranchant, t'as été incisif, t'as mis de l'intensité, t'as joué pour marquer à chaque fois, tu mènes 3-1, t'as la qualif, et tu te mets en position de prendre un vieux corner de merde, un contre, une passe ratée, Lucas Hernandez en rate 2.
Ouais,
tu te mets en position de te faire gifler et que Barcelone récupère le momentum et donc que tu te fasses éliminer. Ils se sont mis dans la pire position possible, ils ont arrêté de jouer. Genre, franchement, c'était dur. La dernière demi-heure, elle est très très dure. Donnarumma qui tire ses coups francs, enfin ses 6 mètres en 20 minutes, c'était très très dur.
Tu sais quoi, je me suis noté 71e, c'est une phrase qui est très paradoxale. Le Barça au bord de la rupture, Paris hésite à enfoncer le clou et est à l'arrêt. Donc en fait, c'est genre, si tu prends les deux informations, tu dis à quoi ça correspond. Paris, c'est assez bizarre, tu vois. Alors peut-être un relâchement, tu vois, peut-être, je sais pas, mais. C'est assez bizarre ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain sur les 20 dernières minutes parce que t'as vraiment l'impression que là, tu peux faire sauter le coffre-fort, quoi. Que plus tu vas y aller, émotionnellement, le Barça n'y est plus du tout. Ils ont pris un énorme coup sur la tête. Ils sont à 10 contre 11. Il n'y a plus d'entraîneur adjoint sur le bord du terrain. Et t'as l'impression que plus tu vas aller les harceler, plus tu vas leur poser des problèmes. Et en vrai, tu peux. Là, on va garder le secret, mais on sait qu'il y a quelqu'un à la First Team qui a commencé à regarder le match avec nous. C'est à ce moment-là qu'il est parti en se disant bon, c'est complètement cuit, on prend une valise et puis c'est terminé, quoi.
Il est rentré chez lui, il a bien fait.
C'est le sentiment qu'on a tous eu à ce moment-là.
Parce le scénario,
que... Non, mais c'est le sentiment qu'on a tous eu, mais je te rejoins. C'est encore une fois, t'as le momentum, mais tu veux pas l'exploiter, tu veux pas aller au bout, et tu n'as que cet avantage de plus 1, et c'est incompréhensible pourquoi le Paris Saint-Germain à ce moment-là.
Et je vais aller vers toi, Thomas, mais il y a un homme. On peut peut-être ouvrir le sujet maintenant. Mbappé qui, dans ces moments, doit être le tueur. Et on l'a vu trop de fois demander le ballon dans les pieds sans qu'on comprenne. Tu dois les tuer sur la transition.
Théorie de base, c'est Luis Enrique qui lui demande. Ça, c'est, je pense quand même.
C'est possible.
Je crois que Luis Enrique a quand même ça en lui de dire on va gagner sans que l'équipe puisse se créer le danger parce qu'on a l'équipe. Je crois quand même que dans ses préceptes de base, c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Si on est fort avec la balle et qu'on perd pas le ballon, drôle de calcul, hein, on va pouvoir gérer. Donc Mbappé, t'as raison d'aller sur lui à fond, et ouvrons le sujet Kylian en parlant de son dernier but aussi, mais il a été l'instigateur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup décroché, il a eu une balle là, en contre-attaque, la balle est mal donnée, je crois que c'est Nuno Mendes, qui lui donne, il y en a peut-être une dernière aussi à la fin, et alors qu'on avait tous envie qu'il aille marquer ce doublé, qui est 4-1, et qu'on arrête tout. Bon, en vrai, il l'a marqué, hein.
Oui, il l'a marqué,
4-1, il l'a fait, en deux temps.
Ouais, pas comme on le pensait, mais il l'a fait, t'as raison. Non, mais c'est... En fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur la consigne de Luis Enrique. Il faut se remettre aussi à un moment donné dans le contexte du match. Araujo est sorti. Qui est-ce qui a un contrat sur Kylian Mbappé? C'est Koubarsi, qui est un incroyable joueur et qui est sans doute le défenseur de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, mais qui a 17 ans. Et tu disais, appuyer là où ça fait mal, C'est peut-être là justement où j'aurais aimé qu'il aille
Martinez,
chercher un
là,
peu
ou
plus
Martinez,
de...
Martinez qui est rentré.
Complètement.
Pas très bonne rentrée, ouais. Martinez.
Martinez, il est rentré, il a pris un jaune direct, ouais. Bien coiffé. Très bien coiffé.
Bien coiffé. Les gars, donc le PSG s'impose finalement 4-1, si je ne dis pas de bêtises, 4-1, ouais. Avec donc le doublé d'Mbappé. On va regarder les notes de ce match qu'on a donné, que l'équipe First Team, la rédaction First Team, FT Sport, pardon.
Toutes
FT
les
Sport,
équipes de First Team.
FT Sport a donné. On a donné, on commence par Donnarumma, on lui a donné un 6, les gars.
Très intéressant d'avoir vos avis dans le ouais. Dans le chat, sachant qu'on a aussi un sondage qui est l'homme du match. Je vous dirais aussi qui a reçu le trophée d'homme du match par l'UEFA.
N'hésitez voilà. pas à nous dire avec qui on est trop sévère et avec qui on est trop clément. Donnarumma, les gars, pour commencer 6, il n'y a pas grand-chose à dire sur son match et c'est plutôt bon signe.
Bah en fait, c'est bête à dire, mais à la fois, il ne transpire pas la sérénité. Et en même temps, il a fait des arrêts qui sont décisifs à des moments qui ont quand même été, clés. C'est difficile de ne pas lui mettre la moyenne.
Il fait l'arrêt qu'il faut.
Il fait l'arrêt, exactement. Lewandowski. Notamment sur, c'est sur Lewandowski. Non, Gundogan, non ? Attends, oui, c'est non, sur la frappe de Gundogan.
Lewandowski. Gundogan, elle est à côté.
Ouais. Gundogan, poteau.
Si mérité, on disait tout à l'heure, fautif, pas fautif, on peut en discuter.
Mais il y a la gestion, et on en parlait, et Polo s'est beaucoup énervé pendant le direct à juste titre, sur la gestion, sur les coups de pied arrêtés et corners. Moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. Tu vois. En 2024, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Mais bon, il est comme ça.
6 pour Donnarumma, on enchaîne avec la charnière centrale pour vous spoiler, c'est notre top, ça fait partie de nos tops. 7 pour Hernandez, 7 pour Marquinhos. On a senti pour le coup des mecs confiants. Thomas, Hernandez quand même apporte ce qu'on lui a demandé en le transférant du côté du Paris Saint-Germain, c'est de la grinta. Et Marquinhos quelque part est peut-être rassuré d'avoir un gars comme ça à côté.
Ouais, c'est clair, ça t'as raison, mais la lecture elle est compliquée. On leur a mis 7, tu prends un but au début du match, c'est pas forcément de leur faute. Clairement. Ils ont gagné des duels, Marquinhos on l'a revu célébrer comme à l'ancienne, faire des retours exceptionnels, etc. S'il y a à la fois leur performance individuelle, donc ils ont perdu pas trop de duels, même si Rafinha le met à l'envers là à la fin, mais il y a aussi ce sentiment global qu'ils sont pas sereins. Des longs ballons, le 3 contre 3 sur un long ballon.
Dès que ça joue dans leur dos.
Il y a Rafinha qui joue, voilà. Il y a des moments un peu fébriles. Il y a tous ces moments-là. Ça s'est bien goupillé. Et je crois qu'il faut leur mettre 7 pour ce soir. Mais tu sens aussi que dans un match normal où l'équipe est à 11, que l'équipe pousse, qu'elle a le momentum, t'as aucune assurance que ça se passe bien.
Robert Lewandowski, si on l'a pas vu ce soir, c'est notamment grâce à Lucas Hernandez. Et moi, une question, je sais pas, j'y pense depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps on n'a pas vu Marquinhos faire un aussi bon match en match éliminatoire justement de Ligue des Champions? Je pense qu'il faut remonter à très 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 loin. Et c'est vrai que t'as raison, ils ont pris le feu sur des transitions, sur des longs ballons justement. Le Barça a pas assez insisté là-dessus, je pense, ce soir. Mais bon, c'est leur problème. Et Marquinhos a quand même une sacrée capacité à aller couvrir. Et il a été énorme.
On leur met une note de 7 aussi parce que les deux joueurs sur les côtés en défense sont des mecs qui montent énormément. Et du coup, bah, t'as beaucoup plus de taf. On a mis 5 à Nuno Mendes. Si ça avait été un ailier offensif, on lui aurait peut-être mis 7. Mais là, il a des pertes de balles qui sont trop importantes quand t'es défenseur gauche. Les gars, Nuno Mendes, il est pas loin de coûter le match à un moment. Hein.
Bah, le premier but, il est pour lui. Et c'est pour ça qu'il a une note qui est plus basse que les autres, qu'il a la note la plus basse de l'équipe avec Zahir Emery. Mais ouais, c'est un petit peu, on reste sur notre fin. Hakimi intéressant aussi dans le rôle, dans le jeu sans ballon. On a vu qu'il allait se positionner au milieu pour justement aller chercher aller apporter justement le surnombre face à Barcelone. Donc c'est peut-être là aussi on va aller chercher le plus 1. Et puis il finit très très bien ce match, Hakimi, hein. Il y a des duels très 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 importants qu'il va aller gagner et des sorties de balles aussi également qui font beaucoup de bien au PSG.
De toute façon, un mec avec cette qualité physique dans une fin de match où en face ils sont cramés, c'est trop important.
C'est pour lui le but. La de course de Mbappé à la fin. Même si on en parlera après quand on va parler d'Mbappé, ça m'intéresse.
Le milieu de terrain avec, on va commencer par Zaire Emery, pas grand chose à dire.
Il a été travailleur, il a été sérieux.
Homme de l'ombre.
Il a été tactiquement au point. Il a énormément manqué dans le match.
Techniquement, pas très juste.
Techniquement, on l'a très peu vu, il a raté des choses et tout ça, mais à un moment donné, le foot, c'est aussi ça, être capable d'être sacrifice, il l'a été. Et on rappelle que c'est un gars qui a 18 ans et qui physiquement, moi, me bluffe toujours. Donc, ouais, il faut des mecs dans l'équilibre de ton équipe qui soient capables de sacrifier comme ça.
Ruiz, on en a parlé tout au long du déroulement.
Il fait un énorme match. Donc... Disons-le, c'est le plus beau match que je l'ai jamais vu faire au PSG. Voilà, c'est son meilleur match. Techniquement, j'ai vu enfin ce que voit en lui Luis Enrique. Je l'ai vu physiquement aussi tenir. Moi, ce qui me rend fou avec lui, c'est qu'il est grand, qu'il est lent, qu'il est mauvais de la tête.
Ça fait beaucoup.
Il m'a prouvé le contraire.
Il est grand et lent, mais c'est ce qu'on disait en début de débrief tout à l'heure. En fait, moi, ce soir, enfin, j'ai vu le ballon aller vite. tu vois, avec lui, c'est-à-dire par la passe qu'il va aller rechercher, par l'appel qu'il va fournir derrière, par la projection aussi, parce qu'il s'est énormément projeté Fabien de Ruiz, et on n'oublie pas que c'est le principal animateur dans la première période avec sa relation avec Barcola. Et non, franchement, il a été extraordinaire. Je pensais pas, je vais pas te mentir, en voyant la compo, je me suis dit, putain, mais pourquoi encore lui, pourquoi encore lui
aussi, après.
C'est vrai que t'as pas trop le choix. C'est vrai que t'as pas trop le choix. D'autant plus par rapport au temps de jeu qui est donné aux autres par Luis Enrique ces dernières semaines. Mais en tout cas, il a été vraiment bluffant, je crois que c'est le mot.
L'un des facteurs de ce match retour, on le savait, c'est, ça allait être le milieu de terrain. Est-ce qu'ils allaient gagner la bataille du milieu de terrain? Et grâce à Vitinha, on vient de parler de Ruiz, grâce à Vitinha, qui sort un match exceptionnel, un match référence, le PSG a dominé ce milieu de terrain et a gagné ce match.
Il est mon homme du match, moi. Il a été à la fois techniquement, dans l'orientation du jeu, le maestro du PSG, donc dans cette position de 6. Là, franchement, moi, il me bluffe. Lui aussi, hein, il a gagné en coffre au fur et à mesure de la saison. Dans les duels aussi, je le vois faire des choses incroyables. Et puis, il est décisif. Donc, quand tu ajoutes ce but qui change absolument tout, tu vois, c'est le deuxième. Là, à partir du deuxième, tu te dis que c'est bon, ils vont réussir à le faire. Voilà, ils vont réussir à se qualifier. Une frappe de très haut niveau. Et puis, j'aime le côté... c'est quoi? C'est toi notre gars. C'est toi notre go-to guy. C'est toi notre Xavi, tu vois.
Ouais,
c'est toi notre Iniesta. On va jouer sur toi au milieu de terrain et ça va débloquer des choses pour les attaquants. Franchement, il fait un magnifique match. On lui a mis 8. Moi, je vous ai dit, j'étais capable de lui mettre 9 parce que je l'ai trouvé exceptionnel dans le match.
T'as pas tort parce que où est-ce qu'on lui retire les points en fait?
Ouais,
si
voilà.
Enfin, si
c'est
tu,
clair,
si tu fais la réflexion inverse, où est-ce que tu lui retires les points? Il était juste du début jusqu'à la fin. Il a compensé, il est allé percuter, il a fait des différences au milieu de terrain. Et il a apporté un truc, mine de rien, encore une fois, si on devait faire le jeu des 7 différences avec le Paris Saint-Germain de ces dernières années, il a apporté du sang-froid et de la sérénité. Et ça, mine de rien, au milieu de terrain, dans un match comme celui-ci, c'est très très important.
On a vu un
T'as les stats par hasard? Je vais les regarder peut-être. Si vous avez les stats, dites-nous un petit peu les pertes de balles, les ballons touchés de
Vitinha. Ouais, ça nous intéresse dans le chat, on lira tout ça. Mais Vitinha fait un match de cador, un match à la Thiago Motta, à la Verratti, à des cadors du PSG à l'époque. Il a 24 ans.
Il a marqué. Hein.
Ouais.
T'as parlé de mecs qui marquent.
Allez, retour.
C'est un 2000.
Moi, j'ai vu plutôt Modric, mais après, tu le gars qui s'enflamme.
Non mais t'as raison sur le côté. Le mec a fait un match de cador de Ligue des Champions. Faut pas oublier que c'est un 2000.
T'as raison, c'est un 2000.
Ça c'est ouf.
Et il dégage beaucoup de choses.
Il a trois trucs, juste très rapidement. Il a tout ce qu'on veut dans un milieu de terrain aujourd'hui dans le football moderne. Il a le volume de jeu, la technique, l'intelligence. Basta.
Sachez que le chat a voté Vitinha homme du match. À la fois sur le sondage sur Twitch, 61% en faveur de Vitinha. Et aussi sur YouTube, 54%. Donc on est tous plutôt d'accord, on a vu le même match. L'UFA a mis Ousmane Dembélé homme du match.
J'ai cru qu'ils allaient mettre Mbappé, tu vois. Non, quand tout à l'heure, t'as joué le coup de la surprise, mais si, ils vont faire un truc comme ça.
Ouais. Avant de passer à Indy Attack, je vous invite juste à mettre un petit j'aime sur le live. Ça nous fait un peu plaisir, ça nous donne un peu de la force. Et on va pouvoir enchaîner sur l'attaque. Je vois qu'on est à quelques likes, on est beaucoup, donc n'hésitez pas. Les gars, on passe à la ligne offensive. Et il y a un mec qui est beaucoup revenu dans le chat, notamment. Beaucoup le plaçant en tant que MVP, c'est Barcola. Alors nous, on lui a donné la note de 7. Parce
belle
qu'il
note,
fait,
hein.
C'est une très belle note parce qu'il fait une première mi-temps exceptionnelle et il paye peut-être sa deuxième mi-temps où on le voit un peu moins. Mais Thomas, c'est son meilleur match sous les couleurs du PSG?
Ouais, je l'ai trouvé incisif, je l'ai trouvé percutant. Autant contre la Real Sociedad, il avait marqué, on s'en souvient, alors qu'il était passé complètement à côté de son match. Là, j'ai vu un jeune joueur, vraiment, il y a encore beaucoup de choses à travailler, hein, physiquement, etc.
Clairement.
Mais il est très en confiance et dès qu'il a des espaces, mine de rien, il arrive à faire cette différence importante. Donc, je tiens à remercier tout le COP lyonnais hein, qui nous a permis d'aller le recruter. Merci Tom, hein. La force lyonnaise sur l'aile gauche parisienne. J'aurais jamais pensé dire un truc comme ça. Écoute, bravo. Un Lyonnais en demi-finale avec des champions, ça doit te faire plaisir.
Bon, c'était arrivé il n'y a pas si longtemps.
Ah bon?
Bah oui, on est allé en demi-finale au Final 8.
Mais ça, on compte vraiment parce qu'il n'y a que le PSG, il n'y a que le Bayern qui a gagné, le PSG en finale et Lyon en demi. Sinon, les autres, tout le monde s'en fout.
Non, bravo Barcola.
Il fait un énorme match, on est d'accord.
Il fait un énorme match. Il fait exactement ce qu'on demandait à un ailier du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il va provoquer dans le dos de cette défense. Il est allé beaucoup provoquer Koundé, qui fait un match très honnête. Hein. Jules Koundé, qui était
solide, t'as raison.
Est en grande forme.
Bien sûr.
Et pourtant, il arrive à créer beaucoup de différences.
Et la passe D aussi, hein, je me suis bien dit.
La passe D, il obtient le pénalty. Il obtient le carton rouge.
Oui, tout à fait. Voilà.
C'est là que tu vois la marge. Enfin, c'est là que tu vois. T'as raison. Il a une marge de progression, mais c'est là que tu vois déjà la progression de ce garçon-là. Rappelle-toi en match de poule de Ligue des Champions, quand il rentrait en cours de jeu, il avait des opportunités, mais systématiquement, tu disais putain, il manque de caractère, il manque de métier, il manque d'un quelque chose, en tout cas, pour être véritablement décisif. Et moi, je pensais pas que Barcola puisse être l'un des héros d'un match à élimination directe, on va le dire, sur des matchs aussi importants de Ligue des Champions. Moi, ça montre qu'au contact de Luis Enrique, ce gars-là progresse, et ça, c'est énorme.
J'ai hâte de rentrer pour écouter Daniel Riolo sur Bambi, il l'appelle
sur
Bambi.
Sur Granola et Je trouve tout.
J'ai hâte d'entendre Daniel Riolo sur Barcola, parce que c'est un peu la Madeleine là, derrière moi, il a beaucoup parlé de lui, etc. Donc, je suis curieux de l'entendre, parce qu'il fait vraiment un super match de daron. Bravo à lui.
Clairement. Il va faire un mea culpa, on imagine.
En fait, c'est un impact player qui a commencé dès le début du match, c'est quand même assez extraordinaire.
On a beaucoup parlé de Ousmane Dembélé, on lui a donné la note de 7, preuve qu'il fait un énorme match, et c'est peut-être l'homme de ce quart de finale, buteur à l'aller, buteur au retour.
L'avantage, c'est qu'il joue encore contre une ancienne équipe, hein.
C'est vrai, Dortmund.
Il va peut-être s'excuser quand il a
un but par match. Un but par match.
Incroyable.
Continue, mon grand, marque pas plus du tout en Ligue 1, et par contre, marque un but par match en Ligue des Champions.
Non, mais malgré toutes les blagues qu'on peut faire, deux buts sur des quarts de finale, c'est énorme.
Et le péno.
Sachant qu'il en a mis 3 cette saison avant ça.
Ben oui, 66% de ses buts cette saison ont été marqués contre le Barça.
Tant mieux, je préfère ça qu'à la 12e journée de Ligue 1. Tu vois, à la limite, c'est mieux pour le Paris Saint-Germain. T'as raison. En fait, il est impliqué sur la majorité des buts ce soir du Paris Saint-Germain. C'est un offensif. La stat est importante dans le football moderne. On est obligé, du coup, de lui mettre cette note-là. Maintenant, voilà, les points négatifs et les freins sur le match qu'il a disputé ce soir, on les a dit un petit peu plus tôt. Donc. Passons au cas Mbappé, les gars.
Kylian Mbappé, on lui a donné la note de 7. La rédaction FT Sport a donc décidé de lui mettre une note qui est plutôt bonne. Il met un doublé ce soir, les gars, et il n'a que 7. Comment on l'explique? Qui veut commencer?
Vas-y, j'ai créé un petit sondage.
Vas-y. Alors déjà, il y a les deux buts, comme l'a dit Tom un petit peu plus tôt. À partir du moment où tu es décisif, et c'est le rôle aujourd'hui d'un joueur offensif, c'est difficile d'aller chercher une note qui est inférieure. Moi, il y a une chose qui a changé quand même. Au-delà de la stat, vous avez tous vu le match, et vous pourriez regarder les stats à la fin du match. Au-delà de la stat, moi, il y a un truc qui m'a plu ce soir dans Kylian Mbappé, c'est que j'ai vu un sursaut quand même de caractère par rapport à ce qu'il nous a montré au match aller. Sur les 10 premières minutes, il va presser comme un zinzin, je l'ai jamais vu faire ça. Alors c'est des courses qui peuvent sembler inutiles à certains, mais elles sont importantes parce que mine de rien, ça limite l'espace et c'est coordonné avec ce qui se passe aussi également avec ses coéquipiers sur la première ligne justement de pressing, et ça c'est intéressant.
Le cas Benzema avec le Real.
Exactement.
Benzema qui donne le tempo, c'est important.
C'est exactement ça. Et ça m'a beaucoup plu. Il a fait des efforts défensifs, je crois qu'il fait un tackle assez important en deuxième période, je sais plus sur quelle action où justement il soulage. Oui, tu as raison, sur l'action du but où justement il soulage. Et après, sur les deux buts, bon, il y a le pénalty qui est parfaitement frappé, ça passe à deux doigts quand même dans la main opposée de Ter Stegen, mais c'est le football, c'est comme ça. Ouais, on va pas dire qu'il a eu de la chance. Voilà, il a mis une grosse patate. Et il met un but de renard avec pas mal de réussite, bien aidé par la relance un peu loupée de Koundé en fin de match. Donc c'est un match un peu ambivalent, c'est un peu compliqué à voir.
Thomas, on le voit peu hors des buts, hormis ces deux buts, et pourtant on le voit beaucoup plus qu'à l'aller.
Ouais, bah incomparable, hein. Il y a eu des espaces de toute manière, donc lorsqu'il y a des espaces, Mbappé peut faire la différence. Moi, ma vision sur lui, elle est simple. Bon, c'est le joueur qui a le plus de pression au monde aujourd'hui. Ah, il n'y en a pas deux comme lui. Voilà. Dès que tu rates un match, tout le monde en parle, dans tous les pays, il est nul, il est surcoté, etc. On connaît sa valeur de joueur, on l'a vu dans les très grands moments. Dans ce match-là, il est repositionné en 9. Importance immense dans ce match, parce que par ce positionnement, le Barça fait un choix clair. On va barricader l'axe. Tu barricades l'axe, qu'est-ce qui se passe?
Pas de profondeur.
Dans les ailes, dans les ailes, non pas dans pas la profondeur, dans les ailes, il y a des deux contre un à jouer. Barcola, il se régale parce que Koundé, il est tout seul face à lui et Nuno Mendes. Cancelo, qui dort à l'opposé, c'est parce que toute la défense est fixée sur Mbappé. Donc la première influence de Kylian, elle est là pour les adversaires, pour les coéquipiers qui peuvent en profiter. L'autre truc, tu as raison de souligner, c'est que oui, il a été invisible dans le jeu, on l'a pas vu en remise, on l'a très peu vu dans la profondeur, oui. Mais il a fait des efforts qui, à l'image de Luis Enrique, qui lui demande toujours plus, donne le bon exemple à ses coéquipiers. Je l'ai vu leader avant le match, c'est lui qui parle dans le duel. Je l'ai vu faire cette action qui est pour moi capitale, parce que je le mets avec l'image que j'ai de lui au premier match, où il y a cette action, je ne sais plus qui est tout seul au Barça, mais sur un corner, il y a personne à la Vitinha ce soir, et c'est une action hyper chaude. Là, il fait l'effort à la 89e minute de revenir, de faire ce tacle, et c'est lui qu'on retrouve à la finition. Ça, juste dans l'implication, dans les fameux ingrédients du haut niveau, ben voilà, on ne peut absolument rien lui reprocher. Et puis on ajoute à ça qu'il met deux buts. Et moi, je trouve qu'on est quand même dans un drôle de monde où on oublie que mettre un but en Ligue des Champions, c'est un truc de malade. Mettre deux buts alors que tu as perdu 3-2 à l'aller et qu'il faut te qualifier sur un match au Barça, à Barcelone, avec tout ce qu'on connaît de cette histoire, c'est historique en fait. Mettre un doublé comme ça, c'est historique.
C'est Ronaldesque.
c'est Ronaldo. C'est Ronaldesque, t'as raison. C'est Messi, c'est Ronaldo, c'est ces joueurs-là qui sont juste exceptionnels.
Est-ce
voilà.
que c'était un match pour lui, quelque part, quand on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas... c'était peut-être pas forcément le match où justement tu vas le voir galoper, faire ses 25 mètres, aller casser les reins, toute la défense, faire sa spéciale, repiquer intérieur. À partir de là, il a la feuille de stats, il a eu le comportement surtout. Il a eu le comportement, il a eu l'attitude. Maintenant, il y a quand même une petite question qui se pose quand même sur le niveau. L'intensité, il l'a mise, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosivité Mbappé.
Il est un peu court physiquement, tu penses ?
Je sais pas.
Peut-être,
un truc. Franchement, je t'avoue qu'il y a un
truc. J'ai envie de donner un peu de crédit, et c'est bizarre de le dire, mais à la défense du Barça, qui a presque trouvé un plan Mbappé. Alors, c'est bizarre à dire parce qu'il met un doublé ce soir, mais il met un doublé sur un pénalty qu'il ne provoque pas, et sur une contre-attaque où, bon, c'est pas le plus dur à mettre, mais il le met en deux temps, il le met. Mais sur deux matchs, ils ont réussi à le rendre inoffensif, et je trouve que c'est quand même important de le souligner.
Ouais, mais c'est pas choquant parce que qui a le ballon ? Paris sur les deux matchs.
Ouais, c'est vrai.
Il joue dans l'axe.
Il n'y a pas de transition, en fait.
Voilà, on a tous en tête ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, où il a été décisif de nombreuses fois, mais sur la demi et sur le quart contre l'Angleterre, il arrive à être décisif contre le Maroc dans l'action, c'est lui qui décante, mais en fait, il est toujours bien pris, parce que tu es toujours à 1-2, à 1, avec un mec derrière, voire un deuxième mec derrière, donc à 3 contre 1, et donc tu ne peux pas faire la différence. Donc moi, je crois que tu peux le faire. Là où Kylian est trop fort, c'est il déboule côté gauche, il y a un peu d'espace, il en a un contre 1, on connaît. Exactement. Je rajoute aussi que j'ai trouvé qu'il était altruiste. Pas du tout été dans l'allée, à l'allée.
À
mais
part
la passe.
Deuxième but. Après, je sais pas, c'est dur. On joue pas à ce niveau-là.
Et toi, tu méga frappes à la fin.
Et t'as une vision d'en haut en plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est altruiste sur l'action qui aurait pu faire changer de match. C'est la petite passe à Ruiz où on est sûr qu'il va frapper et il fait dans le bon tempo. Donc, il fait pas un grand match dans le contenu, mais il a quand même 5 actions où tu dis il est trop fort le mec. Et c'est ce qu'on lui a demandé, il a été décisif. Donc voilà, bravo.
Je prends quelques commentaires, merci de nous suivre, d'être là pour notre retour pour les débriefs. On sera évidemment du coup en direct pour le match retour de PSG Dortmund. On en parle dans quelques instants. Yann Owen qui nous dit difficile de critiquer la copie finale de Kix, mais il a pas été dans un grand soir. Il y a Simon qui dit il coupait la relation Ter Stegen-Kubarsi, très important. Des efforts qu'il a fait loin du ballon. Kubarsi afin de contrecarrer la relance barcelonaise, match utile de sa part, et c'est vrai que c'est important, on n'est pas utile que par les buts quand on est numéro 9, et il l'a montré ce soir. Par contre, niveau body language, c'était mille fois mieux, ça aussi, il a raison. Mbappé a un 7 et aujourd'hui il fait un bon match, et le prochain adversaire c'est Dortmund, on en parle dans quelques minutes.
Oh, putain,
encore
me lance pas là-dessus,
mais
top flop,
l'impression qu'il va avoir quelques espaces. On passe à nos top flops. Polo, on commence par les tops. On a parlé de beaucoup de choses dans les tops, donc on va pas avoir besoin d'y revenir. Vitinha, on en a beaucoup parlé, la charnière centrale, grand bravo à eux, et puis la qualif, les gars, ça reste le plus important. PSG n'enregistre que sa deuxième demi-finale de l'RQSI, c'est
avec,
quand même
avec un... troisième avec Final 8, parce qu'on ce soir, tu sais, c'est le moment des superlatifs, c'est leur troisième, soyons fous. Voilà, troisième. Quand tu vas en finale, t'es passé par la demi. Bravo à Paris.
C'est la même année.
En 2020, Final 8, et en 2021, ils battent le Barça et le Bayern, ils partent contre City.
Ah, t'as raison.
En demi ?
Bien sûr, Kylian est blessé. Vous en souvenez pas ? Il y a deux non-matchs, il neige à l'aller. On comprend rien.
Ah oui, il neige.
Et ça, c'est en 2021 dans les stades vides.
Je sais plus les City.
Non, mais c'est Mahrez qui est terrible. Ouais, c'est ça. Bref, on s'en bat les couilles, mais ils sont allés.
C'est où t'es qualifié un quart d'heure à la fin ?
2020-2021. Non, il n'y a pas de match.
My bad. C'est la troisième.
Mais toi, tu penses qu'à Lyon, de toute façon. Tu penses qu'à la finale de Coupe de France. Au stade Pierre Mauroy, on y va toujours pas du coup ?
Ah si, on peut y aller.
Bah non, on peut pas y aller.
Parce que j'ai un mariage. Mais c'est très bien parce que.
Que tu animes comme ce soir d'ailleurs.
Eh oui, les Parisiens seront concentrés sur leur objectif Ligue des Champions et ils vont pas penser à rien de faire.
Mais moi, les flops, on le dit n'importe quoi.
Les flops, on en a parlé. Arojo du côté, on a mis des Barcelonais hein, évidemment.
Pourquoi on a pas mis Arojo avec le recul.
Arojo rouge.
Mauvais.
L'intensité, Manu, on en a parlé. On a été très surpris des visages des Barcelonais ce soir devant leur public. Pas au Camp Nou, on le rappelle.
Et en plus, dans une belle ambiance, hein, quand ça rentre sur la pelouse avec les sifflets sur l'hymne de la Ligue des Champions en présence du grand représentant de la Super League. Non, franchement, ils ont tout donné, les Barcelonais, ce soir. L'intensité a pas été au rendez-vous et je la mettrai en corrélation avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la gestion émotionnelle.
Et puis Cancelo, on va conclure juste avec cette partie avec un petit mot quand même sur le Barça. Départ de Xavi à la fin de la saison, On pensait un peu que cet épisode Ligue des Champions allait être une poésie dans cette saison compliquée. Finalement, le Barça ne remportera pas la Liga, le Barça ne remportera pas la Ligue des Champions,
ni la Copa.
Le Barça ne remportera aucune coupe cette saison. C'est une saison sans. Et pourtant, juste les gars, en deux mots, ils peuvent construire sur des joueurs. On l'a vu.
Il y a des joueurs. Il y a au moins un joueur par ligne qui a émergé en effet cette saison. Tu l'as dit, chez les jeunes. Maintenant, moi. Au final, puisqu'on va commencer à pouvoir faire un premier bilan de ce FC Barcelone, j'ai l'impression d'avoir vu 4, 5 visages à ce FC Barcelone qui a joué de 10 000 manières différentes. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion de base, d'ADN aussi à se poser, parce qu'on a vu que lorsqu'ils ont fait du mal au Paris Saint-Germain, c'était une équipe totalement de transition, qui refusait complètement la possession. Il y a une vraie réflexion à travers le choix du prochain entraîneur, de savoir quelle identité de jeu il faut apporter à ce Barcelone.
Moi, j'ai pas envie d'être dur avec eux, parce que le rouge chante... Enfin, dur avec eux, soyons durs avec eux, mais...
Sûr.
Le foot à 10 contre 11, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que le nombre de matchs où on a vu l'équipe à 10 être largement plus concentrée, impliquée que l'équipe à 11 et faire des coups, aller chercher des victoires, j'étais quand même sûr qu'un grand club comme celui du Barça, même si l'équipe est jeune, était allé être capable d'avoir de l'orgueil. Et ils se sont complètement écroulés. On aurait pu mettre d'ailleurs Xavi, je pense, dans les flops. Donc c'est une année de transition comme le PSG, tout le monde le dit. Ils vont changer de coach, ils vont changer ici ou là leur leader. Il y a tout à reconstruire pour cette équipe. En fait, le poste Messi, il est très dur à digérer.
Il est dur.
Très dur. Fin de route donc pour Xavi avec le Barça qui repartira avec une Liga. Son passage au Barça. Se concentre sur la demi-finale de la Ligue des Champions.
Eurostar.fr. Oh non, pas maintenant.
Tu vas à Dortmund. C'est qui reçoit au premier? Je sais même pas.
Je sais pas,
vous l'avez, dites-nous dans le chat.
Pas du tout,
J'ai envie de vous porter l'œil et d'y aller en voiture. Vu que c'est une autoroute, n'hésitez pas. C'est donc Dortmund qui affrontera le PSG en demi-finale. Dortmund qui avait perdu 2-1 au match aller du côté de l'Atlético Madrid et qui est revenu des enfers.
Les deux équipes qui étaient éliminées au début du retour sont passées.
Au coup de sifflet,
incroyable.
Au coup de sifflet du match retour.
C'est pas mal quand il y a un match aller et une semaine après le match retour, quand même.
Bah ouais, par rapport au quart, tu veux dire. Par rapport au 8ème.
4-2 match retour, les gars. Ce qui est bien pour se projeter sur cette affiche, c'est que vous les connaissez bien, ces joueurs de Dortmund, puisqu'ils étaient dans la poule du PSG. Il y a eu 2-0 au match aller, match nul lors du retour. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce match? Alors, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG a déjà affronté Dortmund dans des phases d'élimination directe en Ligue des Champions. C'est quand même un beau tirage. Vous pensiez jouer l'Atlético qui est moins qu'à doit prendre.
Alors oui,
sur le papier,
ils sont pas passés.
Faut y aller avec de l'humilité ou faut dire ce qu'on pense vraiment, parce que c'est ça l'euphorie du supporter aussi.
Commence par l'humilité et au fil des phrases tu t'en bats.
L'humilité, c'est qu'il y a 4 mi-temps à jouer et que ça va être
180 minutes.
Il y a plus d'humilité, match aller à Dortmund. Tu peux y aller. C'est-à-dire que le retour est au parc.
Allô, deux chambres pour Londres.
La France du foot, les supporters du PSG ne doivent absolument pas tomber dans le piège.
La France favorite.
Non mais vraiment, je crois que c'est important de le dire. Je sais pas ce qui va se passer, on verra. Oui, c'est un boulevard. Oui, c'est le meilleur tirage. Oui, c'était inespéré. Oui, Real Sociedad. Bravo, ça fait partie du jeu. L'Inter allait en finale l'année dernière avec un tirage simple. Ça fait partie du jeu.
Un tableau un peu plus simple.
Nous ne devons pas manquer d'humilité. Les joueurs, le coach, il faut y aller avec confiance, avec toutes les certitudes que tu as réussi à créer sur ces 4 matchs ce 8e et ce quart. Tu dois y aller pour gagner, conquérant, etc. Mais que tous les gens autour ne nous sortez pas la soupe de ça va être facile.
Non.
Ils vont aller en finale. Les gars, il n'y a rien de facile en Ligue des Champions.
Il faut qu'on arrête ce côté bipolaire où l'équipe l'a dit ce matin, avant tous les quarts de finale aller, ils ont fait un sondage en France, 40% des interrogés estimaient que le PSG était le favori pour la victoire finale de la Ligue des Champions, 38% pour Manchester City.
Peuple de footix, ça.
Alors voilà, c'est ça. Voilà, petit pays de football.
J'ai voté.
grosse caquette dans le caleçon.
Ou alors grosse crise des abonnements des diffuseurs. Parce que franchement, c'est quand même assez étonnant.
Regarde les matchs, en fait.
Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, je t'avoue que le Borussia Dortmund. Alors, je regarde pas beaucoup la Bundesliga.
Cinquième de Bundesliga.
Et ce Borussia Dortmund là, j'ai l'impression d'avoir vu encore une fois. On disait le Barça a eu 4 ou 5 visages cette saison. Juste sur la phase de poule, le Borussia Dortmund de l'aller et le Borussia Dortmund du retour. Pour moi, n'avait absolument rien à voir. Maintenant, il y a une équipe quand même avec des sacrés joueurs. Moi, Füllkrug, c'est quand même pas mal devant. C'est quand même un sacré buteur, mais c'est pas le plus élégant que l'Europe nous ait offert. Julian Brandt, c'est quand même un cador. Sancho, c'est quand même un cador qui se relance du côté de Dortmund. Sabitzer a fait apparemment un sacré match ce soir.
Emre Can et
Emre Can aussi, voilà, c'est quand même encore un gros milieu de terrain.
Il y a des joueurs qui connaissent.
Il y a quand même
des
clubs qui connaissent aussi joueurs, ce niveau.
Exactement. Et puis tu vas avoir une grosse ambiance aussi quand tu vas aller jouer à Dortmund. Donc voilà, honnêtement, ça va être une super demi-finale et niveau jeu, je pense qu'on sera pas déçu quand même.
Non, niveau de jeu, on ne sera pas déçus. Les gars, je vous demande comme ça un prono. Alors, c'est loin, on a le temps de s'y projeter. J'imagine que vous voyez tous les deux se qualifier le PSG.
Bah, c'est mon envie, bien sûr. Et je pense que quand on va regarder... D'ailleurs, je vais regarder sur Winamax si tout de suite ils ont mis. Ouais, parce que vous savez qu'ils aiment bien faire ça et enchaîner rapidement. Oh là là, j'ai oublié de vous dire. Avec Polo, on a confiance. Et on a décidé d'y aller. Oui, j'ai joué 100 euros sur le PSG gagne. Je ne sais pas s'ils allaient se qualifier, mais j'ai joué 100 euros. Je viens de gagner 305 euros. Il ne faut pas beaucoup jouer, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Je me suis fait plaisir et je suis ravi d'avoir passé ce...
avec prudence.
Bah, là, c'était avec prudence et avec confiance. Alors, du coup, je regarde vite fait. Attends. Je vous dis ça tout de suite, les gars. Désolé. Tac, manana, c'est tombé.
C'est tombé.
Ah. Match aller, du coup, à Dortmund. 3-35 Dortmund. PSG 2 à l'extérieur. Et je vous donne les chances de qualif. Wow. Je sais pas si. Ouais.
Paris
incroyable.
Favori.
Attends, je cherche qualif.
Ils ne sont pas sortis encore.
Ouais, qualif pas sorti. Mais donc PSG, grand favori chez les bookmakers pour le match aller, en tout cas.
Dites-nous dans le chat si vous aussi vous pensez que le PSG est un grand favori. Manu, toi aussi, tu étais d'accord avec ses cotes, Winamax ?
C'est compliqué, tu vois.
Oui,
Paris a peut-être. Mais pareil, Paris avait ce petit avantage, était peut-être un peu favori face au FC Barcelone. On a vu que ça a été un petit peu plus compliqué. C'est une demi-finale, franchement, ça va être top. Oui, allez, Paris un petit peu plus favori, mais honnêtement, à ce niveau-là de la compétition, ça va jouer sur des détails comme d'habitude.
Attention.
Et puis on verra, tu vois.
Attention à pas exploser.
Tu dis quoi, toi? Parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis.
Ouais, un avis extérieur. C'est vrai que nous, on est peut-être un peu trop parti pris.
Je pense que sur le papier, mais comme pour le Barça, le PSG est une meilleure équipe. Mais attention au scénario du match aller où on a vu que le PSG se déplaçait mal cette saison, sauf ce soir, hein, visiblement.
Oui. C'est la première victoire, t'as raison, extérieur.
Ils sont bien déplacés. Mais attention au match aller, mais à un moment donné, t'es favori, en plus, je joue le retour chez toi. Compliqué d'aller contre l'avis des cotes. On va regarder les cotes pour les matchs de demain parce que là, on peut quand même plus se projeter les matchs. Mine de rien, on a vu les matchs aller, donc c'est plus simple. Manchester City est coté 1,33 pour la qualification. On se rappelle, il y a eu combien au match aller? Ils ont gagné? Il y a eu 2-2. 2-2, c'est ça. Je vais aller vérifier quand même. Le Real Madrid.
3-3, ouais, c'est ça que j'allais dire.
Est à 3-20. Merci, les gars. Real Madrid à 3-20. Les gars, voir le Real toujours aussi haut, c'est quand même surprenant.
Ben là, si t'es parieur, en fait, il y a deux visions. Moi, je pense que d'un point de vue sportif, je vois plus Manchester City passer que le Real Madrid. Mais si tu te fais d'un point de vue parieur, bien évidemment que t'as beaucoup plus envie d'aller jouer la cote à 3-20 du Real Madrid qui a dans son ADN la coupe aux grandes oreilles et les retournements de situation et de scénarios qu'on lui connaît. Donc voilà, c'est vraiment les deux visions, je trouve, qui s'opposent.
Moi, je dis quand même que City a un clair avantage.
Ah, moi aussi, je pense.
Ah ouais, tu joues à
Mais
deux,
si t'es parieur, tu la joues à 1,33 la
oui,
cote.
Oui, alors si je suis parieur, en effet, je me pose la question. Mais hein. En tout cas, mon but, c'est de gagner, hein.
Ouais, c'est
moi, j'aime bien jouer les cotes, mais j'aime bien surtout quand elles passent. Donc voilà, si je devais mettre, si ça avait été un peu plus équilibré, je suis largement allé côté City, l'expérience, le vécu de l'année dernière, etc., etc. Le Real est une plus jeune équipe, hein, sans aucun doute. Donc ouais, je dirais quand même que City part avec un avantage, vraiment. Puis on a au vu du match aller, le Real s'en est pas sorti, tu vois.
C'est marrant, c'est peut-être une réflexion typiquement française et complètement bête, mais City qui est engagé dans une première ligue qui est absolument passionnante, où c'est très 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 serré, et on sait l'importance de la première ligue justement pour les clubs anglais. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu d'influx justement ce week-end? Un Real qui est un petit peu plus tranquille justement en Liga. Non, mais tu vois, dans le scénario et dans tout ce qui a pu se passer avec d'aussi fou en tout cas le week-end dernier. Le Real est un petit peu plus tranquille aujourd'hui dans sa Liga et peut peut-être un peu plus se concentrer et préparer la Ligue des Champions. Après,
c'est ça comme si c'était en demi,
favori,
après demain.
Favori, ouais, non, mais je suis d'accord. Favori, je suis d'accord avec toi, Manchester City.
Moi, je les sens, City, je les ai vus encore ce week-end.
C'est comme tes deux équipes. Hein.
Je les sens plus. Pour le coup, ils arrivent encore plus relâchés qu'à l'aller puisqu'ils ont pris les rênes et derrière, ouais, ça a craqué du côté Liverpool et Arsenal. Et puis, je pense que City joue quand même bien mieux. Mais attention au Real Madrid.
Alors, dites-moi là, parce que là, qui passe demain? Dites-moi qui passe demain, les gars.
C'est City. Le favori, c'est vrai, en fait je il y a deux visions. T'as la vision le favori et qui tu vois passer, et il y a la vision après du parieur de faire la bonne affaire. Et la vision du favori, c'est Manchester City.
Qui passe Manu Tavi?
Manchester City.
Ah merci, qui passe?
Manchester City en emballant le match. D'accord. Très rapidement. Okay, la deuxième affiche de ces quarts de finale, et là ça a complètement changé dans la dynamique. C'est Bayern contre Arsenal. On rappelle qu'Arsenal était grand favori au match aller. Finalement il y a eu deux partout, et au match retour, on va voir les cotes pour la qualification. Et ils ont chuté, Arsenal. Ils sont à 2,05, ils sont devenus outsiders. Ça s'explique par deux choses. Déjà, il joue à l'extérieur contre le grand Bayern, même si c'est un petit Bayern de cette saison, mais c'est le Bayern de Ligue des Champions. Et puis, ils ont craqué ce week-end, Arsenal. Ils sont dans le doute, les joueurs de Mikel Arteta. Les gars, est-ce que vous allez sur les Anglais ou est-ce que vous allez sur les Allemands ?
Non, moi je vais sur les Allemands direct, les gars. Moi j'ai vu des cadres au match aller, je pense à Leroy Sané notamment, que je n'avais pas vu à ce niveau-là depuis très 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 longtemps. Je vois un Bayern passer et comme tu l'as dit, Arsenal, il y a toujours cette... mais peu importe les âges, peu importe les époques, je me pose toujours la question du mental et de cette conversion.
Avant que tu me donnes ton avis.
Non, non, je m'en fous, moi, du deuxième match, j'en ai rien à faire, donne le tien. Moi, ça y est, je suis déjà dans ma demi contre Dortmund.
Ah
bon ? Il est à Londres, deux bières, tranquille, plein soleil, on attend la finale maintenant.
Non, 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 attends, j'ai dit, ma demi-finale contre Dortmund, il est fou, lui.
C'est possiblement l'un de tes adversaires en finale. Hein,
non, mais je parle de Dortmund, j'ai pas parlé de la finale. J'ai dit la demi-finale.
C'est moi qui ai forcé sur
Tu sais comment il est ?
J'ai forcé sur le tunnel sous la Manche.
Avant que je donne mon prono, on vous rappelle que Winamax est notre partenaire et si vous voulez profiter de l'offre FT Sport, on vous invite à suivre ce que va vous dire Thomas Dufan.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Et moi, je vois Arsenal craquer, puisque ce sont des craquettes, voilà, le Bayern qui passe en demi-finale. Les gars, merci de nous avoir suivis pour ce débrief. Vous avez été nombreux pour notre retour dans ces débriefs en direct de Ligue des Champions. Les gars, merci Manu.
Merci Tom, merci les gars.
Merci Thomas.
Merci à Aymen, qui était le talisman du PSG. C'est son premier, première grande joute de Ligue des Champions avec
nous. Il va regarder chez lui la prochaine.
Demi. Merci à Paoletta, qui nous a supportés pendant toute la soirée. Merci à Paoletta aussi. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Et merci au PSG nous avoir donné de belles émotions dans le foot français.
Et positives.
C'est assez rare comme ça. Et on pense à nos Marseillais qui, jeudi, ont tout à faire.
Ouais,
ils ont tout à faire.
Et il y a la place peut-être.
Mais ça va être lourd.
À domicile, au Vélodrome, ils peuvent emballer le match contre Benfica. On vous rappelle que le foot est de retour sur FT Sport. Et nous, on se retrouvera pour la preview des demi-finales de la Ligue des Champions. C'est pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Voilà, on pourra prévoir ce qui va se passer entre le PSG et le Borussia Dortmund. Merci les gars, bonne soirée. Et quand même, bravo au PSG.
C'est bien, c'est beau, ça.